Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mouni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Nous sommes lundi 13 octobre 2014. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Grand Dialogue d'aujourd'hui est consacré à la question suivante, au décryptage, pardon, du voyage de Moussa Mara en Europe. Voici les trois axes de ce débat. Le plaidoyer pour le renforcement de la lutte contre le terrorisme, la relance économique et le quitus du FMI. Le processus de paix, un passage obligatoire donc. Après cette visite, nos invités, Zoromé du parti Yelema, Amadou Goïta du parti socialiste, Étienne Fakaba Sissoko, universitaire, et Baba Dakono, juriste. Je suis Famoussa Sidibé. Petit Ndiara est à la mise en onde. Le Premier ministre Moussa Mara vient de boucler un voyage en Europe. Il a notamment participé au Forum économique sur l'Afrique organisé par le Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, en partenariat avec l'Union africaine. Moussa Mara a multiplié les contacts et les discussions avec les différentes personnalités à Paris. Le gouvernement malien souhaite plus d'implication de la France dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Alors, le plaidoyer pour le renforcement de la lutte contre le terrorisme de Moussa Mara a-t-il été entendu, Amadou Goïta, de l'opposition?
Je vous remercie. Je dis bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de la radio Tamani. Le plaidoyer a-t-il été entendu? Bon, c'est la question que nous posons nous-mêmes. Maintenant, la question principale qu'on se pose d'ailleurs, est-ce que ça appartient à un chef de gouvernement de demander aux autres d'aller se battre à notre place? Moi, j'aurais préféré que le Premier ministre demande surtout que la communauté internationale accompagne les autorités maliennes à travers notre armée pour essayer de venir à bout de ce terrorisme au nom du pays. Mais malheureusement, je vois que c'est la communauté internationale qu'on cherche à travers l'aménagement, à travers l'opération Barkhane. C'est cette question principale qu'on se pose. Maintenant, est-ce que son appel sera entendu? Voilà la question qui se pose, puisque l'appel est mal fondé. On ne peut pas demander aux autres d'aller se donner la mort à notre place. Ça nous appartient d'outiller notre armée, d'équiper notre armée et de mettre notre armée en première ligne, sans seulement que les autres viendront nous appuyer.
D'accord. Alors, M. Zoromé, vous êtes le représentant du parti Yelema, parti du Premier ministre Moussa Mara. Cet appel a-t-il été entendu? Et est-ce que vous êtes d'avis avec Amadou Goïta par rapport à la ponctualité, sinon au bienvenu de ce message adressé à la France?
Et bonsoir à tous. Bonsoir, chers collègues participants, et bonsoir à tous les auditeurs et les auditrices. Je pense que l'appel sera entendu par l'Union européenne et par la communauté internationale. Et je trouve qu'également, il est important que le Premier ministre, de par son autorité politique et de pouvoir, si un pays est engagé dans ces situations, notamment que nous constatons au Nord, c'est bon que le Premier ministre, vraiment, se fait un appel. Et cet appel est d'ordre normal, aujourd'hui, je trouve. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que les questions terroristes au nord du Mali, ce n'est pas un enjeu national, c'est un enjeu international. Donc cela va de soi que c'est vrai que la communauté internationale est en train de former, est en train de d'équiper l'armée malienne. Cela va de soi également qu'ensemble, que nous nous battons vraiment pour contrecarrer vraiment ces flots-là au nord. Donc je pense que l'appel de Moussa Mara, c'est tout dans ce cadre-là. Ok.
Alors, nous avons également un juriste avec nous, Baba Dakono. Vous venez d'entendre l'avis de la majorité représentée par le représentant de Yelema et l'opposition à travers Amadou Goïta. Quel est votre avis par rapport à cet appel du Premier ministre?
Merci Monsieur Sidibé, merci pour l'occasion donnée. Bonsoir à toutes et à tous. Juste avant de donner mon avis, permettez-moi de préciser que je suis juriste, mais je réponds ce soir à l'invitation du regroupement Plus Jamais Ça, qui est un regroupement de jeunes qui poursuit l'objectif de promouvoir la bonne gouvernance et de constituer une veille civile sur les actions des pouvoirs publics. Comme l'a dit les deux précédents intervenants, en fait, la question aujourd'hui est, comme on le dit, problématique. Il est vrai que l'armée malienne doit être en avant-poste aujourd'hui, doit être sur le premier plan, parce que c'est une question de défense, c'est une question d'intégrité. Mais la situation de l'armée est connue. C'est ce qui justifie d'ailleurs l'appel du président John Kounda Traoré en janvier 2013, qui a appelé les Français à venir appuyer le Mali pour l'aider à reconquérir l'ensemble de son territoire. C'est-à-dire que les objectifs n'ont pas été atteints comme on le souhaite. Et il est normal aujourd'hui que le Mali demande l'assistance de la communauté internationale, parce qu'il est dit depuis avant janvier, je crois depuis 2011, le président d'alors Amadou Toumani Touré appelait de ce vœu les acteurs de la sous-région et les acteurs de la communauté internationale pour s'impliquer davantage, trouver une solution face à la menace terroriste qui a atteint aujourd'hui des proportions qui dépassent l'entendement. Maintenant, par rapport à l'appel du Premier ministre, maintenant, est-ce que c'est un simple appel et quels sont les moyens que les pouvoirs publics maliens se donnent aujourd'hui pour qu'effectivement cet appel soit entendu? Vous savez, le vote de la résolution 2170 et les résolutions précédentes n'ont pas fait suite à un appel ou à un discours politique d'un pays à un autre. Ce sont des affaires qui méritent une implication, non seulement de la communauté internationale, mais aussi de pays qui peuvent porter la voix du Mali au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui. Donc, quels sont les moyens que le gouvernement se donne pour que cet appel soit entendu?
Vous extrapolez le débat, vous pensez que ce n'est plus un problème uniquement malien?
Oui, absolument.
Alors, Étienne Fakaba Sissoko, pour résumer un tout petit peu la situation, une dizaine de casques bleus tués du contingent tchadien en 3 semaines, suivi de 9 soldats nigériens et d'un militaire sénégalais, tout ça dans des attaques terroristes, ce qui pousse le Mali à demander la création d'une unité spéciale d'intervention dans le nord. Pensez-vous que ce 10e appel de Bamako à la communauté internationale est opportun?
D'abord, il faut préciser que l'appel à la communauté internationale a déjà été répondu, parce que la présence de Serval qui s'est ensuite commué en Barkhane, la présence de la MINUSMA est une réponse de la communauté internationale justement à l'appel du Mali à travers les lettres successives de John Kounda dont Baba faisait allusion tout à l'heure. Donc la communauté internationale a répondu. Mais ce qu'on peut tirer de cela, c'est que il y a visiblement le fait que les autorités maliennes sont aujourd'hui dépassées, totalement dépassées par le problème. Et que cette même communauté internationale à qui on a fait appel il y a 2 ans, qui est avec nous, qui nous a certes aidé à assurer la sécurité au nord de notre pays pendant quelques temps, mais qui aujourd'hui joue à un double jeu, joue à un trouble jeu, qui fait aujourd'hui qu'elle-même n'arrive plus à contrôler la situation sécuritaire au Nord. Donc c'est ça le véritable problème. Donc on peut continuer à faire des appels, on peut continuer à faire des déclarations, mais encore une fois de plus, ces appels ne serviront à rien si nous-mêmes nous ne prenons pas conscience des enjeux que nous avons. Regardez au même moment où le chef d'état-major déclare publiquement que nous sommes en mesure de faire face à toute attaque des djihadistes en cas de rupture des pourparlers, au même moment, le Premier ministre appelle la communauté internationale à agir. Donc il y a véritablement un manque de cohérence entre la façon dont les autorités maliennes veulent gérer cette question-là. Donc je pense que aujourd'hui, il y a urgence surtout que nous essayons de mettre notre armée en avant. Quel que soit ce qu'on peut leur reprocher, quelles que soient les lacunes qu'elles ont, aujourd'hui, elles doivent être en avant pour pouvoir... C'est elles qui doivent être appuyées et non pas le contraire. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a des réunions qui sont en train de se passer au nord du Mali sans l'armée malienne. Comment voulez-vous gérer la sécurité d'un pays sans les principaux acteurs de ce pays-là? Donc je crois qu'il y a l'occasion pour nous aujourd'hui de revoir à la veille des pourparlers, de la reprise des pourparlers, de revoir notre stratégie et de voir véritablement est-ce que nous devons continuer à faire des pourparlers. Parce que les pourparlers ont pour but justement de faire revenir la paix au Nord. Et si en allant à ces pourparlers, on sait pertinemment qu'en signant un document, que ce document ne servira pas pour amener la paix au Nord, Je dis qu'il faut faire d'abord face à cette menace et ensuite entamer les pourparlers.
Alors aujourd'hui, les premiers responsables des Nations Unies crient haut et fort qu'il faut aujourd'hui changer la façon de faire de la MINUSMA. On sait que les procédures au niveau des Nations Unies prennent du temps, énormément de temps. S'il faut aujourd'hui mettre en place une unité spéciale comme ce fut le cas au Congo par exemple, il faut pas moins de 6 mois. Est-ce que vous pensez, Sungalo Zoromé, que le Mali puisse parvenir un jour à ce que la MINUSMA puisse être en possession de ces moyens-là pour agir sur le terrain?
Bon, il faut reconnaître que la finalité, c'est la stabilité du pays et puis la paix. Moi, je pense que les processus, les démarches que nous allons entamer, que ce soit la durée, moi, je pense que la finalité, c'est la paix au nord et la stabilité et la réconciliation nationale. Et je pense que les questions de MINUSMA, les questions des Nations Unies, effectivement, ça prend du temps, mais ça demande vraiment, faut qu'on revoie les textes, on revoie beaucoup de paramètres, les contours. Donc, du coup, on peut pas engager comme ça les Nations Unies, on peut pas engager également les pays vers ces engagements internationaux sans qu'on le voie, c'est-à-dire à l'intérieur des documents. Je pense que ça demande de la patience et je pense, à mon avis, ce qui est important, c'est les résultats qui comptent. C'est ça qui compte. Okay.
Alors, Amadou Goïta, vous êtes de l'opposition, vous représentez le parti socialiste à ce débat. Au moment où on parle de la communauté internationale, de son action sur le terrain, de l'inefficacité de son action sur le terrain, puisqu'il faut le dire, la force Barkhane, à travers le ministre des Affaires étrangères, à travers le ministre de la Défense français, annonce avoir détruit un convoi du groupe ACMI. Pensez-vous que c'est une réponse à ces nombreuses attaques contre la MINUSMA?
Est-ce qu'il y a une réponse à cela? Si c'est le cas, tant mieux. Mais j'estime aujourd'hui que la MINUSMA a fait l'objet de beaucoup de critiques. C'est vrai, elle a des insuffisances aujourd'hui, tant en effectif d'hommes et en équipement. Je pense qu'ils sont en train d'évoluer un peu, puisqu'ils demandent aujourd'hui à augmenter l'effectif. Et aujourd'hui à s'équiper, surtout à avoir des drones. Mais la question principale qui se pose aujourd'hui, c'est que on ne peut sécuriser un territoire où il y a plusieurs porteurs d'armes. Ceux qui sont les premiers responsables, malgré que nous sommes en négociation, malgré que nous sommes en pourparlers, c'est le MLNA, il faut le reconnaître. Tant qu'on ne respectera pas les esprits des différents accords signés, notamment l'accord de Ouagadougou, même la feuille de route, où on reconnaît l'intégrité territoriale du Mali, on reconnaît la souveraineté, l'unicité, la laïcité. Et cela suppose que les groupes armés doivent être cantonnés. Ça permettra en ce moment d'identifier et de savoir que ceux qui ont pris les armes contre le Mali sont engagés dans un processus de dialogue. Et tous ceux qui porteront des armes, à partir du moment où ils sont cantonnés, doivent être considérés comme des cibles potentielles. Mais tant que cela n'est pas fait, je le dis, le jour ils sont MLNA, la nuit ils sont des terroristes. Donc c'est cette confusion aujourd'hui qui nous amène à nous poser un certain nombre de questions.
Alors aujourd'hui, dans l'actualité, il y a un véhicule du MNLA qui a sauté, qui a sauté sur une mine.
Ah, bien sûr. Les mines, personne ne peut les contrôler. Mais il faut reconnaître que c'est ce mouvement djihadiste. Comme vous le savez, je pense que c'est Amsardine qui s'est transformé en Chua. C'est Amsardine qui s'est transformé en Chua. Je pense que l'État malien doit prendre le taureau par les cornes. Aujourd'hui, c'est bien de demander aux autres. Mais le mieux, la communauté internationale est déjà présente au Mali. Je voudrais dire aux représentants de Yélema qu'on ne va pas attendre 6 mois. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, c'est des morts. Chaque jour, nos populations vivent dans des situations extrêmement difficiles. La mission du gouvernement, c'est de faire en sorte d'amener la stabilité, d'amener la sécurisation, de sécuriser plutôt ces zones. Malheureusement, depuis le 17 mai, depuis la visite de Mme Contreuse du Premier ministre, cette zone qui était quand même sous gouverne, nous échappe chaque jour davantage. Et malheureusement, le Mali aujourd'hui n'est plus maître de son destin.
Alors nous allons observer 2 secondes de pause avant la deuxième partie du débat.
Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, nous sommes également présents sur notre site web www.studiotamani.org. Réagissez à ce que vous entendez également sur notre page Facebook Studio Tamani. Le débat continue donc sur cette page et pour ce débat d'aujourd'hui qui porte sur le décryptage de la visite du Premier ministre Moussa Mara en France. Nous sommes à la deuxième partie avec nos invités. Nos invités justement, Sungalo Zoromé du parti Yelema, Amadou Goïta du parti socialiste, Étienne Fakaba Sissoko, universitaire, et Baba Dakono du mouvement Plus Jamais Ça. C'est bien ça? D'accord. Alors nous sommes à la deuxième partie, la relance économique et le quitus du FMI. Mais juste avant d'entamer cette partie, nous allons faire réagir nos deux autres invités qui n'ont pas pu répondre à cette question, sinon réagir à cette question de la force Barkhane. Y a-t-il donc un lien entre l'intervention française qui a détruit un convoi d'ACMI il y a quelques jours et ces nombreuses attaques terroristes contre la MINUSMA, Baba Dakono?
Absolument. En fait, aujourd'hui, il est évident qu'on ne peut pas dissocier le problème du terrorisme au nord du Mali de l'ensemble auquel cette zone appartient, c'est-à-dire le Sahel. C'est depuis d'ailleurs, pour beaucoup d'observateurs, c'est que la crise malienne est la conséquence de l'intervention française en Libye. Il n'y a pas eu une certaine mesure de suivi de ce qui s'est passé en Libye. Conséquence, la plupart de ces combattants se sont retrouvés au Mali et qui a entraîné la situation qu'on a connue en 2012. Donc, de la même manière que les combattants quittent le sud de la Libye pour se retrouver au nord du Mali, c'est de la même manière que quand l'opération Serval a été lancée en janvier 2012, appuyée par la campagne militaire africaine, c'est que ces combattants désorganisés se sont retrouvés pour la plupart en Libye. Et vous connaissez aujourd'hui la situation de la Libye qui fait qu'il y a ces allers-retours. Donc l'un des objectifs de l'opération Barkhane, d'où la mutation d'ailleurs de Serval à Barkhane, c'est d'aborder cette question de terrorisme sous l'angle sous-régional, sous l'angle sahélien en fait qu'il constitue. Donc il va sans dire qu'il y a forcément un lien entre cette action de l'opération Barkhane et les migrations de combattants libyens vers le nord du Mali, et le contraire aussi.
Alors, Étienne Fakaba Sissoko, aujourd'hui, la France annonce la destruction d'un convoi. Est-ce que tout ceci fait partie d'un ensemble?
Moi, je crois qu'il y a d'abord deux choses que nous devons dire. L'erreur que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de traiter de façon différente les djihadistes d'une part et d'autre part le MNLA. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les modes opératoires, quand vous regardez le système de vases communicants qui existe entre ces différents groupes armés, il n'y a aucune différence. Ce sont les mêmes choses. Et autre chose par rapport à ce que Koïta disait tout à l'heure sur la méthode. C'est la méthode employée par la MINUSMA qui n'est pas bonne. Comment vous pouvez comprendre que la communauté internationale qui agit aujourd'hui en Irak et en Syrie agit avec des appuis aériens et qu'au Mali, qu'il n'y ait rien de tout cela? Or, c'est le même danger, c'est les mêmes types de personnes dont nous sommes en train de combattre. Donc aujourd'hui,
les enjeux sont peut-être différents.
Certainement, des enjeux, des intérêts surtout qui restent inavoués du côté de la communauté internationale pour qui ils ne veulent pas intervenir de la même façon. Mais aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire comme erreur également, c'est de penser que c'est un problème du Sahel ou que c'est un problème du Mali. Parce qu'aujourd'hui, le Mali, si le Mali n'arrive pas à faire face à cette situation, nous allons être un réservoir de formation de djihadistes qui se retourneront demain contre eux. Parce que les intérêts qui sont d'abord menacés, ce n'est pas les intérêts...
Contre l'Europe, l'Occident.
C'est l'Occident, bien entendu. Donc, il y a cette urgence-là d'agir. Donc, par rapport à l'effectif aussi dont il est question, oui, il y a manque d'effectifs. Mais comment voulez-vous qu'il y ait effectif suffisant au moment où vous êtes en train de mettre l'armée malienne à côté, qui a pourtant bénéficié des formations de ces institutions-là? Donc, aujourd'hui, à quoi servent ces formations si ce n'est pas de mettre ça à la disposition
sur le terrain?
Donc, il y a tout cet ensemble-là qu'il faut voir. On peut créer de nouvelles structures, on peut créer de nouvelles structures dans 6 mois, dans 1 année, mais ces structures donneront le même résultat que la MINUSMA, parce que les modes opératoires que nous avons aujourd'hui sont inefficaces et ne permettent pas de répondre véritablement à cette menace djihadiste.
Alors, de ce pas, nous entrons dans la deuxième partie du débat consacrée à la relance économique et au quitus du FMI. Le Premier ministre malien a dit que tous les obstacles avec le FMI étaient levés. Faut-il croire à cette déclaration? Je la pose cette question à monsieur le représentant de Yelema, du parti du Premier ministre. Est-ce que vous pensez la même chose que le Premier ministre?
Absolument, absolument, absolument.
Le contraire aurait étonné.
Absolument, c'est vrai. Et effectivement, aujourd'hui, les obstacles, ça commence vraiment à être soulevés. Et je pense qu'on peut garder un bon espoir. Et que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, vraiment, nous allons tisser un bon lien avec les partenaires économiques, internationaux.
L'opposition est-elle d'avis, Amadou Goïta?
Bon, fort heureusement que le Premier ministre reconnaît aujourd'hui qu'il y avait des obstacles. Sinon, quand l'opposition a posé ce problème, le traitement a été le suivant. À l'Assemblée nationale, il n'y a pas de problème à tourner les FMI. D'ailleurs, mon ministre des Finances est à Washington, au centre des bonnes nouvelles. Je crois que c'était
la réponse.
Et 6 mois après, sinon 4 mois après, nous nous rendons compte qu'il a fallu le FMI pour qu'on se rende compte que ceux qui parlent aujourd'hui de la relance de notre économie, c'est eux en partie qui sont responsables aujourd'hui de la situation difficile dans laquelle se trouve notre économie. C'est bon de faire des discours, mais c'est encore mieux de poser des actes. Tous les obstacles sont levés, nous osons espérer. Mais il reste un acte, ceux qui se sont rendus responsables de cette délinquance financière, m'excusez du terme, il est normal aussi qu'ils répondent leurs actes devant la justice.
Alors pensez-vous qu'il puisse y avoir sanction?
Ah, il doit y avoir sanction, mais nous avons des craintes. Nous avons écouté le Premier ministre qui dit que ceux qui sont les hauts cadres de l'administration subiront une sanction administrative. Ce n'est pas une faute administrative, ça c'est un crime. Tout détournement de liens publics excédant 10 millions de francs CFA constitue un crime. Je ne pense pas aujourd'hui qu'on doit parler de sanctions administratives. On doit prendre le taureau par les cornes. C'est nous qui devons le faire avant l'arrivée des FMI. C'est le Mali qui a déclaré l'année 2014 année de lutte contre la corruption. C'est nous qui avons demandé le changement. Je pense que le peuple malien s'attend à des actes. Et c'est ça le plus important. Malheureusement, il a fallu que c'est les FMI qui nous intiment de procéder à l'audit. Et sans seulement qu'on s'est rendu compte qu'effectivement les choses se géraient mal. Et ça a un facteur négatif même sur notre armée. Vous savez, il y a, avant la visite du Premier ministre, le chef d'état-major de l'armée avait fait une visite au nord du Mali, où il est allé dire aux hommes en place que l'état malien n'était plus capable de payer les primes de 50 000 francs parce qu'on n'a pas les moyens. Aujourd'hui, on se rend compte qu'au nom de l'équipement de cette même armée, il y a une minorité de personnes qui avaient voulu s'enrichir sous le dos du continent malien. Donc, on ne saurait procéder à la relance de l'économie malienne sans la bonne gouvernance.
Alors, la bonne gouvernance, le mouvement Plus Jamais Ça, a-t-il des réponses par rapport à ce quitus du FMI qui met le Mali dans une position assez favorable pour attirer les partenaires aujourd'hui? Ou bien faut-il croire le contraire?
Vous l'avez dit, je le disais à l'entame de mon propos, la bonne gouvernance se trouve au cœur des objectifs de Plus Jamais Ça. Nous nous donnons comme mission de faire une veille citoyenne sur tous les actes des pouvoirs publics. Quitus du FMI, oui, mais le quitus du peuple aujourd'hui, parce que ce qui est en question, c'est surtout le peuple malien qui s'est senti ou le trahi, qui ne comprend plus rien. Tout de suite, M. Zoromé parlait d'espoir. C'est justement cet espoir qui s'estompe un peu davantage. Aujourd'hui, le FMI peut donner son quitus, mais ce qui est impératif aujourd'hui, c'est que les pouvoirs publics maliens ont aujourd'hui besoin du quitus du peuple. Et ce quitus ne peut venir que si les mesures, la juste mesure de ce qui vient de se passer est prise en fait. Et cette mesure, elle doit être prise au plus haut niveau, puisque au regard de ce qui est révélé par le rapport, c'est que toute cette manigance est montée au plus haut niveau. Parce que je ne comprends pas certaines irrégularités. Si le niveau était arrivé jusqu'à un certain niveau, on aurait pu éviter certaines irrégularités. Donc les sanctions doivent tomber pour qu'aujourd'hui, et qu'on rassure, et non pas par les discours, vous savez, comme on dit, si bien dire fait rire, si bien faire fait taire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de communication, mais le gouvernement doit revoir également sa communication, non pas par les discours qui se contredisent d'ailleurs, mais par l'acte, la communication par l'acte. On a besoin de savoir qu'aujourd'hui, le changement annoncé est véritable. Des actions sont entreprises pour qu'aujourd'hui les ressources, les maigres ressources, hein, il faut le dire, sont gouvernées, utilisées à bon escient.
Alors, Étienne Fakaba Sissoko, avant d'entrer dans cette question du FMI, et même plus largement sur cette déclaration de Moussa Mara en France, de façon générale en Europe, avec ce sommet, la participation à ce sommet de l'OCDE. D'abord, ce rapport de la commission locale chargée de faire le point sur les dysfonctionnements dans les marchés publics, précisément de la défense, 15 marchés qui ont été annulés. On a même vu des contrats, des doublons de contrats. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout cela ?
Que véritablement, les autorités actuelles n'ont pas souci du peuple malien. Que les maigres ressources que nous avons, ils n'ont que faire de la souffrance du peuple. Parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'aujourd'hui, que vous tenez des discours de désespoir devant l'armée nationale qui doit faire face à cette horde de djihadistes, et que derrière qu'il y ait quelques individus qui amassent des fortunes au détriment de l'intérêt du peuple. Donc il y a véritablement à la tête de l'État aujourd'hui des gens qu'on doit revoir.
Est-ce que les autorités sont conscientes de ce fait ?
Bah, en tout cas, c'est au peuple aujourd'hui, à travers les nombreuses associations qui sont en train de se créer aujourd'hui, de travailler davantage à cela, pour que les autorités, même si elles ne sont pas conscientes de cela, ce qui m'étonnerait d'ailleurs, en tout cas, qu'on sente ce peuple-là derrière eux, sur leur dos, pour que des choses comme ça ne puissent plus se reproduire. Le slogan des Baba Dakono pouvait se réaliser. Pour répondre à votre question, je dis que aujourd'hui, dire que les obstacles ont été levés relève de l'utopie, parce que lorsque nous regardons les conclusions justement de la mission du FMI, il apparaît clairement que, dans un premier temps, qu'il devait y avoir le rapport définitif du vérificateur général, ce qui n'est pas encore sorti. Il y a le rapport de la Cour suprême qui vient tout juste de sortir, qui enfonce d'ailleurs le clou en mettant l'accent sur des types de transactions qui font mal à la tête, qui sont une violation flagrante de toutes les règles de bonne gouvernance que un État aujourd'hui en situation de pauvreté ne peut pas se permettre. Quand vous regardez par exemple le fait qu'il y ait des dépenses aujourd'hui extra-budgétaires qui sont effectuées, quand vous regardez qu'il y a des dépenses aujourd'hui qui sont ordonnées, qui sont exécutées sans ordonnancement, des dépenses qui sont exécutées sans visa du contrôleur financier, hein, au détriment de tout ce que nous avons comme loi sur la comptabilité publique, on se rend compte que il y a des choses à revoir. Maintenant, quand on s'appuie également sur le rapport de la Cour suprême, on remarque qu'il y a un certain nombre de recommandations qui ont été faites. Mais ces recommandations ne serviront à rien justement si derrière les personnes responsables de ces actes-là ne sont pas amenées devant la justice. Et c'est dommage que la Cour suprême ne s'est pas auto-saisie dès l'instant que la presse, que l'opposition, que la société civile avaient déjà commencé à se manifester par rapport à toutes ces questions-là. Donc aujourd'hui, il y a urgence que des têtes tombent. Et les quelques remplacements qui sont en train d'être effectués à la primature ne suffira pas à calmer le peuple qui a aujourd'hui soif de justice. Il faut le départ pur et simple de l'ensemble de ce gouvernement, parce que des ministres sont incriminés dans cette histoire. Sans le départ du gouvernement, sans donner un nouveau visage à l'exécutif de notre pays, on ne s'en sortira pas. Et les partenaires techniques et financiers ne seront pas rassurés tant que les mêmes personnes seront aux affaires.
Alors, est-ce que ce scandale, juste en deux mots, Étienne, est-ce que ce scandale reconforte l'ancien Premier ministre Oumar Tatamli dans ses positions?
Non, je crois qu'en patriote, il a même honte. C'est vrai que l'histoire lui donne raison, mais il a honte, comme tout Malien aujourd'hui, de voir son pays trimballer dans des histoires comme ça. Et à sa place, j'aurais eu le même sentiment. C'est vrai, un sentiment de fierté pour le fait que l'histoire m'a donné raison, mais un sentiment de honte, en tout cas, en tant que Malien, de voir mon pays, avec de si maigres ressources, aller dans ce sens-là.
Alors nous allons observer quelques secondes de pause avant la troisième et dernière partie du débat.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Oui, les réseaux sociaux Studio Tamani, c'est notre page Facebook, c'est Twitter et c'est également notre site web www.studiotamani.org. Alors nous débattons ce soir du décryptage de la visite du Premier ministre Moussa Mara en Europe. Nous sommes à la troisième partie du débat qui parle du processus de paix entamé entre le gouvernement malien et les groupes armés au nord. Nous avons comme invité Sungalo Zoromé du parti Yelema, parti du Premier ministre Moussa Mara. Et nous avons également Amadou Goïta de l'opposition du parti socialiste, Étienne Fakaba Sissoko, universitaire, et Baba Dakono, représentant du mouvement Plus Jamais Ça au Mali. Alors, le processus de paix a-t-il eu, était question également de ce processus de paix? On croirait que oui. Le Premier ministre Moussa Mara, au cours de sa visite, il a certes été question de sécurité, mais aussi de processus de paix. Le dégel du FMI favorise-t-il le retour de la paix au Mali, Sungalo Zoromé?
Oui, le retour de la paix définitive au Mali, effectivement, c'est possible aujourd'hui. Et à partir du moment où les pourparlers ont été enclenchés en Alger, la troisième phase va commencer d'ici le 15 octobre s'il n'y a pas de difficultés. Et je pense qu'on peut espérer un retour définitif de paix au Mali.
Alors, est-ce que le retour des partenaires avec en toile de fond le FMI, Amadou Goïta, favorise le retour de la paix et de la réconciliation au Mali?
Bon, je pense que le FMI n'était pas à l'origine de tout ce que nous avons connu. Non.
Le développement de façon générale?
De façon générale, je pourrais tout simplement dire que notre souhait est que les pourparlers en Algérie, parce que au contraire, hein, le FMI est venu ouvrir les yeux du peuple malien. Cela est extrêmement important. Moi, je me pose la question aujourd'hui. Je me dis, quelle différence peut-on faire entre ceux qui ont pris les armes contre le Mali et ceux qui profitent de cette attaque pour vouloir spolier les maigres ressources du peuple malien? Il n'y a pas de différence. Maintenant, nous osons espérer, comme Étienne l'a rappelé, que le président de la République prendra le taureau par les cornes. Aujourd'hui, ce gouvernement, je ne dis pas qu'ils sont tous responsables. À partir du moment où le gouvernement détermine et conduit la politique nationale, dispose de l'administration, et qu'on se rend compte, surtout Mara, à son arrivée, avait fait signer un document des 10 commandements où on rassurait le peuple malien de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption. Je crois que ce gouvernement doit être mis au chef aujourd'hui. Pour redorer le blason des institutions du Mali, le président doit prendre ses responsabilités, mettre en place un nouveau gouvernement avec des hommes crédibles, des hommes qui ont souci du pays et qui ont pitié du peuple malien. C'est en cela aussi que le processus d'Alger connaîtra une réussite. Puisque quand on a des interlocuteurs qui aujourd'hui manquent de crédibilité, il faut le reconnaître. Parce que c'est le gouvernement qui est responsable. Si d'habitude la corruption était au bas niveau, si d'habitude on accusait les directeurs, les DAF, aujourd'hui c'est le gouvernement qui est responsable de ce que nous vivons. Et tant que cela y est, je crains que ça n'ait plutôt un impact négatif sur les propres analogies. Mais nous nous battrons en tant que parti politique, en société civile, en tant que Malien, pour que le processus de dialogue en Alger aboutisse. Dans le cas contraire, l'État également doit continuer à former son armée.
Alors, la crédibilité dont parlait tout à l'heure Amadou Goïta, est-ce que cette crédibilité perd des plumes, Baba Dakono, du mouvement Plus Jamais Ça?
Oui, ajouter que cette crédibilité, ce n'est pas le gouvernement seul qui est aujourd'hui mis en cause. Ce qui est ressorti du rapport, d'abord provisoire du vérificateur général, du rapport, et ce qu'on entend tous les jours dans la presse et qui n'est pas démenti, c'est que certains hauts responsables, au niveau même de la présidence, ou d'autres qui se sont retrouvés après dans le gouvernement, qui étaient quand même cités dans les malversations autour de ces deux dossiers aujourd'hui incriminés par le rapport de la Cour suprême. Donc en fait, c'est que les sanctions, si elles doivent tomber, ne doivent épargner personne. Et aussi, il appartient au peuple et à nous, organisations, d'être plus vigilants. Et c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs. Nous avons envoyé plusieurs demande de rencontre et nous sommes en train de rencontrer certaines autorités en charge du contrôle pour effectivement voir, parce que on se rend compte que ce qui se passe au Mali, c'est d'abord des rumeurs et un démenti, ensuite la confirmation des rumeurs. Ça devient très très dangereux, alors on se donne aujourd'hui
comme avec le rapport de la Cour suprême, est-ce que c'est encore des rumeurs?
C'est ce que je dis. En fait, c'est d'abord la rumeur, ensuite quelques papiers de presse, ensuite la confirmation. Et entre-temps, il y a eu le démenti du gouvernement. Donc, en fait, c'est très, très compliqué. Et nous, on est en train de se donner comme mission de pousser l'investigation, de faire la recherche, de rencontrer les vrais acteurs. Maintenant, par rapport au
crédibilité.
Oui, ça, c'est sous la question de la crédibilité. Je vous l'ai dit, la crédibilité, elle est entamée partout aujourd'hui, à tous les niveaux. À commencer par le plus haut niveau aujourd'hui. Parce que n'oublions pas que
c'est
2012,
quoi,
le plus haut niveau de la République aujourd'hui, puisque celui qui nomme le gouvernement, celui qui nomme les responsables aujourd'hui, la confiance du peuple, en fait, comme l'a dit, je rappelle juste cette phrase, mon honneur n'est pas à jeter aux chiens, entre guillemets, permettez-moi, j'ai dit la confiance du peuple également n'est pas à jeter aux chiens aujourd'hui. La confiance, elle était énorme, elle s'est manifestée par 77%. Et quel pourcent de voix, elle doit se manifester également dans les prises de décision, dans le choix des hommes. Je reviens à la question des pourparlers pour dire qu'il y a quelque chose qui attire aujourd'hui l'attention, c'est qu'on se rend compte que même les festivals FESPACO, tout ce qui se passe, il y a toujours un point dans le journal où on consacre 5 minutes à l'événement. On souhaiterait aujourd'hui voir dans le journal officiel du Mali, 5 minutes consacrées également aux pourparlers d'Alger pour nous protéger de toutes ces rumeurs. Tout ce qu'on entend dans la presse, infondé ou fondé ou pas, qu'on ait l'information officielle à temps. Ça a été fait pour d'autres sujets moins importants. Pourquoi on ne le ferait pas pour ces pourparlers?
Alors, Étienne Fakaba Sissoko, toujours sur cette question de la crédibilité aujourd'hui du gouvernement, en sachant que les pourparlers d'Alger vont redémarrer, et pensez-vous que le Bamako parte à ces négociations encore plus affaiblies avec ces scandales à répétition?
Moi, je crois plus qu'aujourd'hui, Bamako, le Mali va à Alger pour avoir la paix. Et mon sentiment aujourd'hui, c'est qu'en allant à Alger dans ces conditions, dans les conditions telles que nous les vivons aujourd'hui, ne permettra pas de faire revenir la paix dans notre pays. C'est pourquoi moi, je suis plus partant pour... le fait qu'on sursoie déjà à ces pourparlers, le temps de s'organiser mieux, le temps de voir plus clair dans la stratégie que le Mali souhaite amorcer.
Donc jusque-là, vous pensez qu'il n'y a pas de stratégie claire de Bamako à ces pourparlers?
En tout cas, ce qui est sûr, les fruits de cette stratégie ont du mal à être perçus par le peuple, qui est impatient aujourd'hui de voir où est-ce que le gouvernement veut nous amener, où est-ce que le président de la République veut nous amener. Donc, partir à des négociations avec des gens qui ne représentent absolument rien sur le terrain, parce que s'ils occupaient effectivement le terrain comme ils essayent de faire croire au monde entier, ces attaques à répétition n'allaient pas pouvoir se faire. Donc aujourd'hui, la menace, ce n'est pas le MNLA aujourd'hui. La menace, ce sont les djihadistes. Donc, or, le Mali doit faire face à la menace actuelle. Donc, faire face à la menace actuelle, c'est faire face aux djihadistes. Et cela ne se passe pas à Alger, mais plutôt au nord de notre pays.
Alors, le représentant du parti Yelema, du Premier ministre, est là, Sungalo Zoromé. Étienne Fakaba parlait tout à l'heure de stratégie claire de la part des autorités. Pensez-vous que cette stratégie ne soit pas assez claire?
Pour moi, je pense que les choses sont très claires. À partir du moment où il y a une feuille de route qui a été dégagée il y a bientôt, je crois, 3 mois, 4 mois, 5 mois environ. Je pense déjà à part de cette feuille de route, je crois que c'est une ligne de conduite pour nous tous. Donc, je ne comprends pas pourquoi il dit qu'il n'y a pas une stratégie claire. Moi, je pense à partir d'une feuille de route, on sait où est-ce qu'on doit faire, quand et où est-ce qu'on veut aller. Je pense qu'il y a une stratégie qui est déjà à cette place. C'est à nous maintenant de respecter. C'est ça qui, à mon avis, c'est ça qui est plus important. Bon, maintenant, je reviens à M. Koïta, qui dit que le gouvernement, les sanctions. Je pense que le Premier ministre a été très clair, même le président de la République a été très clair là-dessus. Il dit que nul n'est au-dessus de la loi. Donc, un rapport vient d'être tombé, je crois, il y a quelques jours. Il y a un autre rapport qui vient d'être tombé. Maintenant, les concernés, maintenant, il va falloir qu'eux aussi, ils regardent, c'est-à-dire l'audit d'abord, quand ils vont confirmer effectivement tel ce qui a été fait ici. Je pense qu'il n'y a pas de la justice peut faire son travail. Et maintenant, le gouvernement va réagir. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on se précipite. Et maintenant, on entend aujourd'hui qu'on réagit aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. La justice, c'est des procédures, c'est des enquêtes et c'est des résultats. À partir de là, le gouvernement peut réagir. Je pense que le gouvernement était très clair là-dessus. Le gouvernement va réagir.
Alors, en attendant que le gouvernement réagisse à ces questions, Amadou Goïta, pensez-vous que le gouvernement ait une feuille de route assez claire, assez pour parler?
Le gouvernement a toujours manqué de vision quant à la gestion de ce conflit du Nord. Il est venu trouver les accords préliminaires de Ouagadougou. Accord tantôt qui a été foulé au pied, il faut le reconnaître. Il a fallu les événements du 17 mai pour qu'on se rende compte qu'il y avait un accord qui peut nous permettre de sortir de cette situation. Aujourd'hui, on est allé en Algérie sans avoir une feuille de route.
Vous pensez que les autorités actuelles ont fait fi de l'accord de Ouaga?
Ah, bien sûr. Bien sûr. C'est à partir des événements du 17 mai, surtout du 21 mai, qu'on s'est rendu compte qu'il y a un accord. Aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est d'associer l'ensemble du peuple malien, classe politique, société civile, à ces pourparlers. Je ne dirais pas que tout le monde sera en Alger, mais en amont, qu'on puisse être associé. Je ne dirais pas la feuille de route, puisqu'on a déjà une feuille de route, qui ne fait que reprendre, hein, puisque c'est devenu un slogan, l'intégrité, l'unité. Je pense que ceci était déjà un acquis dans l'accord préliminaire de Ouagadougou.
Alors, juste une parenthèse, vous parlez d'être impliqué à ces pourparlers, l'opposition de façon générale. Le Premier ministre Moussa Mara a déclaré au Parlement qu'il attendait tout, jusqu'à présent les propositions du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Pensez-vous que l'opposition aussi manque de propositions?
Ah non, pas du tout. L'opposition ne manque pas de propositions. Vous savez, ce sujet-là est tellement subtil et puis sensible qu'il ne faudrait pas que les propositions viennent partout. Je pense qu'on doit créer un cadre dans lequel opposition, pouvoir, société civile, qu'on se retrouve et que chacun, à travers son expertise, son expérience, apporte sa petite contribution. Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire des documents pour qu'on s'approprie. Sinon, l'opposition, à travers le parrainant, à travers le parti phare, a toujours fait des propositions. Mais aujourd'hui, c'est le gouvernement qui a la responsabilité, puisque c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta qui a été élu avec 77%. Et je pense que les dessus du Nord occupent une place extrêmement importante dans cette élection. Maintenant, c'est le gouvernement qui doit être le leader, sinon le chef de file. Malheureusement, on ne le sent pas. Tantôt, on fait recours à la communauté internationale, tantôt au stigmatisme de la communauté internationale. Tantôt, on nous parle, je voudrais dire à M. Zoromé que ce qui s'est passé, c'est du flagrant délit. C'est du flagrant délit, on n'a pas besoin d'enquête. Pourquoi a-t-on demandé d'annuler des marchés?
Sur
les malversations. C'est vous qui avez annulé 15 marchés. Fallait-il attendre que les FMI vous demandent d'annuler 15 marchés? C'est vous qui avez accordé 100 milliards de cochons bancaires à une entreprise qui a effectué une surfacturation de 38 milliards de francs CFA. Est-ce qu'on a besoin d'enquête préliminaire par rapport à ça? Je pense que les responsabilités sont subtiles.
À une entreprise qui appartient à un conseil du...
À un conseil spécial du président de la République. Et là, il y a même un conflit d'intérêts. Vous savez, l'orthodoxie financière n'a pas été respectée. La réglementation a été violée. Je pense que ceux qui sont responsables de ça auraient dû même démissionner pour se mettre à la disposition de la justice. Malheureusement, on n'a pas la culture de la démission chez nous. Et aujourd'hui, c'est le gouvernement, pas le gouvernement, le président de la République, puisque le gouvernement est disqualifié.
Alors, en attendant de voir plus clair dans tout cela, nous allons donner le dernier mot à Étienne Fakaba Sissoko pour nous parler de cette stratégie. Justement, selon vous, quelle est la stratégie que le gouvernement doit adopter et présenter au cours de ces pourparlers à Alger?
Aujourd'hui, il y a un travail énorme qui a été abattu en termes de mise en application du processus de décentralisation dans notre pays, qui dans stratégie dans laquelle il y a énormément de lacunes qui doivent être corrigées en termes de transfert de compétences, en termes de transfert des ressources au niveau des collectivités locales et aussi en termes de gestion même de méthodes de gouvernance à assurer dans ces localités-là. Donc la seule proposition que le Mali peut faire et que le Mali doit faire, c'est la crédibilisation, comme le ministre s'y disait, c'est la crédibilisation de ce processus de décentralisation, justement. Sinon, merci. Toute autre procédure de régionalisation, de fédéralisme, de machin, ne fera que nous éloigner de l'essentiel davantage.
Merci beaucoup. Merci à vous. Nous sommes au terme de ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à nos invités. Le débat portait sur le décryptage du voyage du Premier ministre Moussa Mara en Europe, les axes, le plaidoyer pour le renforcement de la lutte contre le terrorisme, la relance économique et le quitus du FMI, le processus de paix, un passage obligatoire. Nos invités, Sungalo Zoromé du parti ILEMA, Amadou Koïta du parti socialiste de l'opposition, Etienne Fakaba Sissoko, universitaire, Baba Dakono du mouvement Plus Jamais Ça. Je suis Famoussa Sidi. Petit Ndiara et Gagne Kanté étaient à la technique. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halo de Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.